tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Brisons la glace. Nous sommes le mardi 20 juin, l'été est déjà là en Norvège et on va passer encore une belle heure ensemble avec nos chroniqueurs autour de la table. Nous avons Emma.
Bonsoir.
Ça va Emma?
Ça va et vous?
Tout va bien. Et Valentin, bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Alors ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? C'est déjà l'été?
C'est déjà l'été, c'est fou.
C'est fou, ça passe vite.
Il est arrivé plus vite que prévu finalement.
J'ai pas vu le printemps.
Ouais, c'est vrai qu'on est un peu passé de l'un à l'autre.
L'été, enfin les chaleurs, les températures sont montées d'un coup, en fait.
Ça a fait un 30 degrés, je pense, au moins, moins deux jours sur la semaine dernière, je crois.
Ouais.
Donc, j'ai vu un peu Oslo se transformer en zone de baignade, même le long de la rivière, du coup, c'est à que celle-là. Ouais.
Ah ouais, c'était la chose à faire, il faut toujours ouais. avoir son...
Toi, en plus, c'est ta première fois, ça va être ton premier été à Oslo, Valentin.
Ouais, j'étais surpris par la température de l'eau la semaine dernière. On est monté à 20-22 degrés. On rentrait dans l'eau comme en Italie, quoi, limite. Fin...
Comme en Bretagne, tu veux dire.
Ouais, non, mais c'est super agréable de pouvoir se désaltérer ou se rafraîchir. Plusieurs endroits d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que tu as testé comme endroit?
Du coup, une île, j'oublie toujours les noms de ces îles-là, mais après, Ovedoya, il y a une île avec un. Bref, il y a une île pas loin d'Ovedoya que j'ai faite.
Gräsholmen.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et après, une autre zone de baignade où il y a carrément en fait, des lignes d'eau.
À Sorenga.
C'est ça. Et puis, j'aimerais bien faire un plouf à Songsvan bientôt. Oui.
Et c'est profond à Songsvan ou
Songsvan, moi je vois des gens, je sais
je
pas.
Je me suis jamais baigné, je sais pas.
Je vois des gens faire la nage en eau libre, ils nagent en combinaison avec des bouées derrière.
Ah ouais, donc ils s'entraînent pour le triathlon, etc. Donc,
ça pourrait être ça, ouais.
Bah oui, il y a l'école de sport à Songsvan.
Et oui, c'est vrai. Mais moi je suis allée juste à côté de la statue de Mother à Munch Museum. Ben là justement, bon, entre Munch et Sorenga.
Munch, s'il te plaît.
Munch et Sorenga, il y a une petite place. On s'est jeté dans l'eau là-bas. C'est très très bien. Et j'ai fait Longyen, donc dans le avec le ferry, pareil. Donc un peu plus loin que Gräsholmen. L'arrêt d'après, le Longyen, avec une belle plage. Température assez sympathique. Beaucoup de monde par contre. Tous les Norvégiens étaient de sortie ce week-end pour profiter des belles chaleurs
de ce mois de juin. Il y a quand même du monde à Oslo, quoi.
C'est ça.
Une fois que le soleil arrive, effectivement, c'est pas une ville fantôme. J'exagère, mais c'est vrai qu'on voit vraiment les rues se remplir avec les terrasses notamment et puis les pelouses.
Qui sont investies.
Investies, tout à fait. Moi, j'étais dans le Grand Nord, soleil de minuit, paysage magique. Mais il faisait pas 30 degrés par contre.
Ah oui, c'est comment la température là-haut?
Alors bon, la nuit, on est entre 8 et 10 degrés. Mais la journée, là, on a eu un petit pic à 23. Écoutez, qui était, ma foi, plus qu'agréable.
Mais c'était bien ensoleillé quand même, non?
Ah bah oui, et puis il ne fait jamais nuit.
Ça explique tes couleurs, du coup.
Ah bah peut-être, va savoir.
Ton tempo.
Des heures à admirer les paysages.
Mais du coup, est-ce que tu as senti le soleil plus fort? Malgré que la température monte pas, est-ce que tu te sens...
Ah si, la température monte complètement quand même.
Oui, mais est-ce que 23 degrés à Amsterdam, ça fait comme 30 degrés à Oslo?
Ah non, parce que j'ai déjà vécu genre 28-29 à Arstad. Non, non.
C'est dur.
Bah ouais, ouais, ils sont tous en PLS en tout cas quand ça arrive.
C'est vrai que j'ai constaté un peu la fragilité norvégienne par rapport à la chaleur ici.
Ah bah ils sont oui. Ils sont pas dans leur élément, quoi, concrètement.
On a beaucoup qui ont acheté une clim au travail. Ils supportaient pas trop la chaleur dans leur appartement.
Ah oui, au bout de 48 heures.
Ouais. Et moi, je suis content d'avoir traversé les 35 degrés à Paris. <j'y
habitais. rire> Tu es rodé.
Et justement, retour en France, Valentin. Oh, d'ailleurs, toi aussi, Emma.
Et ouais. Quoi, j'ai vu du pays aussi. J'ai eu la belle province où l'été était enfin là quand je suis arrivée.
J'ai pris l'accent, c'est bien.
Et tu prends l'accent immédiatement.
Ouais, chez moi c'était plutôt le nord. C'est pas du tout l'accent du nord, mais tu m'as inspiré. C'est plutôt le nord et puis Paris également. Et puis moi, je sais, enfin, j'ai l'impression que mes sensations gustatives, elles ont été anesthésiées pendant 4 mois à Oslo.
Ah ouais?
je courais dans le supermarché tellement ça me paraissait grand et qu'il y avait une grande diversité de produits en France, du coup.
Ah ouais, on oublie assez vite le choix. Ouais.
Et du coup, t'es revenu les valises chargées ou
Oui, mais dans la j'avais quand même une limite de 20 kilos, donc.
Et comme tout le monde, comme tout le monde. Mais on apprend à voyager léger et revenir chargé.
Je sais pas si c'est
renoncé. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Qu'est-ce que t'as ramené?
Du vin. Et après des galettes bretonnes aussi pour les gens du travail et pas les Bretons qui ont tenu un jour du coup au travail. j'ai dû me limiter donc alcool et galette bretonne.
Voilà. Oh, c'est pas mal. Et toi, Emma?
Du pastis. cette fois-ci, pas grand chose parce que je repars assez rapidement, donc du coup, j'avais pas besoin de faire trop de réserves sauf du pastis.
Oh, c'est
important.
On peut pas manquer sa dose de pastis en été.
Non, c'est ça, et on arrivait en fin de bouteille, donc il était temps de renouveler les stocks.
D'ailleurs, pendant la chronique sur le sauna, on avait pris un pastis, je crois, non? C'est ça.
Une chronique, une émission que vous écouterez...
en cours de montage.
en cours de montage. Mais on vous la recommande. C'était un très bon moment pour nous. Mais d'ailleurs, justement, j'aimerais vous demander, est-ce que, bon, il y a Pride qui commence, là, vendredi. Il y a la parade qui sera le 1er juillet. Il y a plein d'événements. Un événement en particulier. Il y a des discussions, il y a des débats, il y a des présentations, etc. Il y a tout qui est sur le site oslopride.no. Est-ce que ça vous participez, vous,
Moi, j'en ai fait plusieurs, ouais. Mais là, j'ai pas encore rien prévu. Ça dépend si les copains et les copines m'appellent.
C'est vrai que après le malheureux attentat de l'année dernière, c'est vrai que
c'est pas malheureux, ouais, c'est tragique.
Tragique, ça un peu refroidi certains, je pense. Mais c'est bien que ça continue et que ça reprenne un peu des couleurs.
Je crois qu'au contraire, il faudrait y aller plus que jamais.
Plus que jamais. Donc le 1er juillet, c'est le dimanche ou le samedi? Non, le samedi. Renseignez-vous. En tout cas, moi, j'y serai sur Oslo pour célébrer les fiertés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme événement cet été? Est-ce qu'il y a des idées? Parce qu'il y a plein de festivals, il y a plein de concerts.
Moi, je vais revenir pour le Hoya Festival où il y a une grosse affiche encore. Comme chaque année, le Hoya Festival qui est à Teuyen et qui est un petit peu l'équivalent de nos Eurocoyennes de Belfort ou des vieilles charrues, on va dire. Bon, beaucoup plus petit quand même, hein, en taille humaine osloïde. Cette année, oulala, je n'ai pas révisé mon programme.
c'est quel week-end?
C'est le week-end du 15 août.
Ah oui, en août.
Non, okay. Du 8 au 12 août, pardon. Cette année, pour moi, chaque année, c'est toujours dans le 15 août. Donc cette année, on retrouve Blur, Wizkid, Sigrid, Susanna Sanford, Devo, le rappeur Large Volar. Enfin, voilà, l'affiche est grande. Voilà.
Ouais, super. Et c'est donc Teuyen dans le
grand le Teuyen Park Annois, ouais.
C'est
à
côté de chez moi. Ouais.
Et pour le coup, c'est à côté de chez moi.
T'as besoin d'y aller, tu peux écouter le concert chez toi.
Ouais, fais attention, surtout un gros... ouais, voilà. Ouais, vaut mieux y être quand même. Mais par contre, c'est très facile, si il y a la queue aux toilettes, je peux facilement m'échapper, dirons-nous.
Et toi, Valentin, est-ce que tu as eu une idée de sortie, d'événement dans ces prochains mois?
Pas vraiment, en fait. Moi, je planifie plutôt des vacances, du coup, un road trip notamment, avec des amis, du coup, au Jotunheimen et puis dans le Ardangerfjord.
Ok.
Mais après, pas de date en tête en particulier.
Alors. Peut-être, je dis bien peut-être, mais on sera pendant qu'on se rafraîchit. Merci Emma. Il y a un événement mi-juillet là à Frédérikstad, donc on va peut-être aller dire bonjour à Camille qui fait partie de l'organisation du Tall Ship Race, qui va aussi parler. Enfin, on va essayer de la rencontrer et on vous tiendra au courant sur Brisons la glace. C'est un événement sympa hein, parce que c'est vraiment des grands bateaux qui font comme ben, une course et qui vraiment ont des grandes distances à parcourir avec des équipes, etc. Donc ambiance festival sympathique sur Frédérikstad cet été.
Et du coup, ils partent de Frédérikstad, c'est ça?
Alors, il y a plusieurs étapes. Je sais qu'il y a une étape en Grande-Bretagne. Ouais. Ils partent en...
Ils vont en, Nouvelle... en Suède. En Suède aussi, je crois, non?
Oui, peut-être. Mmh. Ouais. Voilà, donc ça peut être un gros événement si vous êtes du côté de...
Frédérikstad.
Enfin, après, Frédérikstad, c'est pas très loin d'Oslo, donc ça peut très bien se faire...
Je crois qu'on a 2 heures en train, je crois.
Sur la journée. Mmh. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite transition pour la prochaine chronique de Valentin qui va nous parler ben, d'un grand, de l'incontournable événement.
La fête de la morue. C'est un day made. Alors oui, effectivement, on aimerait bien parler du coup du 17 mai ou 17 mai en norvégien. Qu'avez-vous fait pour ça?
Alors moi cette année, je suis enfin allée voir le Barnetog. La parade des enfants qui vont faire coucou au roi, j'ai enfin réussi à aller voir un peu de quoi ça... C'était quoi l'excitation sur ça? Sympa. Puis après, tranquillement, avec des amis, un repas...
la parade des enfants, aussi littéralement en norvégien, le train des enfants.
Le train des enfants. Barnetog. Et c'était impressionnant.
C'est la chenille, en fait.
Non, j'ai beaucoup aimé. Et bon, j'ai plus aimé, en fait, les orchestres. J'ai trouvé ça super.
Toutes les fanfares.
Ah ouais, j'ai adoré. Bon, après, je suis pas trop full, donc rapidement, je me suis un peu retirée de la foule pour essayer de prendre un peu d'air. Et voilà.
C'est vrai que c'était assez dense, ouais.
Moi, j'étais en France, alors cette année, j'ai pas grand-chose à raconter, j'avoue.
Mais tu pouvais aussi suivre, j'ai vu, enfin, tu le sais sûrement, mais du coup, tu pouvais aussi suivre le défilé à la télé, j'ai découvert ça.
Ah oui,
ça.
Alors ça, moi, j'ai découvert que, par exemple, alors ça, c'est anecdote, quand tu fais le 17 mai chez les Norvégiens, ça commence très tôt, hein, entre 10h30 et 11h, on commence avec une petite
champagne
coupette. Champagne Frukost, exactement. Et voilà, et en général, le défilé est à la télé. Personnellement, j'y suis jamais allée, j'ai toujours vu à la télé.
Et moi, ce qui m'a impressionné sur le défilé, c'est que, alors, autant nous en France, pendant le 14 juillet, on va avoir des commentateurs qui vont commenter les armées, les généraux et tous les actes de guerre, ou les actes héroïques qu'ils ont pu faire du coup pendant leur combat. Et puis là, on va avoir des commentateurs en Norvège qui vont commenter en fait les défilés des écoles en nous disant que tel groupe d'enfants vient de telle école. Ils vont pouvoir faire un petit peu d'histoire aussi sur cette école en passant. Mais ouais. Ça amène vraiment un autre aspect, je trouve, à la fête nationale.
Bah, c'est vraiment une ambiance complètement différente et très chaleureuse et populaire, finalement, je trouve.
Oui, c'est la journée des enfants, plutôt.
Oui. Ouais, alors, ouais. Enfin, après, les adultes, ils profitent bien aussi. Hein.
Ça, c'est vrai.
Bon, bah, du coup, je vais pouvoir y aller, moi. Donc du coup, ça fait maintenant un mois, effectivement, hein, que nous avons vécu le fameux 17 mai. Donc comme on l'a dit, cette journée où la Norvège se transforme en un lieu de fête, un pays habité par une population chaleureuse, bavarde. J'ai trouvé très bavard, moi. J'étais interpellé dans la rue à minuit et demi, j'ai pu parler, avoir des conversations de 40 minutes avec des Norvégiens.
Ah ouais?
Ouais. C'est pour ça qu'il faut le relever quand même. Du coup, une population bavarde, enthousiaste et festive. Autant de mots qui pourraient se traduire parfois par la sobre expression de bourrage de gueule général. Parce que oui, il y a beaucoup de... Enfin, bon, on va pas se mentir. Enfin, j'ai vu pas mal
il ne reste pas sobre, les Norvégiens le 17.
Comme on dit, ça commence tôt. ce qu'on a remarqué aussi, mis à part le taux d'alcoolémie assez élevé, les enfants, c'est mignon. On remarque aussi facilement les drapeaux norvégiens et toutes ces personnes en bouna, du coup, la tenue traditionnelle norvégienne, enfin portée beaucoup par les femmes, mais un peu par les hommes.
Oui aussi, ouais.
Oui, on voit quand même toujours quelques chaussures à boucles et des pantacourts.
Ouais. Donc, et moi j'ai appris que aussi les bounas étaient différents selon les régions.
Ouais, ça,
je me permets de dire, on dit bunade.
Bunade, je... bah oui, j'ai marqué bunade sur la chronique. Oui. Ouais.
Je dé-se-renonce. Et oui, elles ont des couleurs différentes selon les régions. Mm.
Et voilà. C'est tout fait à la main, ça prend beaucoup de temps à être élaboré. Enfin, c'est vraiment... Et puis ça coûte une blinde.
Ouais, ouais, ça coûte très très cher. Ça coûte genre 1500 euros la bunade.
Oh bah, au bas mot, hein.
Au bas mot, ouais. Ouais.
Ah oui, et bah alors on va pas parler d'histoire ?
Bah du coup si, on va quand même parler d'histoire. Alors du coup, il faut revenir 200 ans en arrière. Donc, lors d'une chronique que j'ai fait un peu avant...
Souvenez-vous.
L'année dernière.
Je racontais que la Norvège faisait partie du royaume d'un royaume commun avec le Danemark. Et du coup, à la fin des guerres napoléoniennes, le Danemark était côté français. Napoléon a perdu, donc le Danemark a perdu. Et du coup, le Danemark a dû céder la Norvège à la Suède. Ça s'est fait en janvier 14, pendant un traité qu'on appelle le traité de Kiel. Alors, du coup, les Norvégiens, ils n'étaient pas très contents à ce moment-là. Donc d'abord, ils s'étaient un peu battus avec le côté du Danemark pour combattre la Suède. Puis finalement, ils tombent du côté suédois.
Ouais.
Et en plus de ça, en fait, la Norvège avait les terres du Groenland. Ils avaient également les îles Féroé. Et ils avaient l'Islande. Et ils ont dû céder tout ça. Ils ont dû laisser tout ça aux Danois, en fait.
Ah ouais, là, la grosse loose. Ouais.
Et on avait... Mais par contre, du coup, important à savoir, donc on a un souverain qui est établi par les Danois en 1813, Christian Frédéric, qui, lui, reste, du coup, malgré ce traité, roi de Norvège.
Mais alors, est-ce que c'est une importance qui reste en place, Christian Frédéric ?
Alors, du coup, oui. Car, du coup, après le traité signé en janvier 14, les Suédois doivent encore envoyer des troupes pour s'assurer que Napoléon est bien KO. Qui sera calmé une bonne fois pour toutes. Et du coup, ils vont se concentrer plutôt sur cet acte-là, et ça va laisser un peu de place à Christian Frédéric, du coup le roi de Norvège, pour renforcer la Norvège, s'assurer du soutien des Norvégiens, et pourquoi pas, du coup, si elle est assez forte, pourquoi pas devenir plus tard le futur héritier du royaume de Suède et de Norvège. Bref, du coup, ils se consolident une place pendant que les Suédois ont le dos tourné. Et surtout, ils remarquent qu'il y a une envie d'indépendance du côté norvégien.
D'accord.
Donc, du coup, pour faire cela, pour s'assurer qu'il a bien soutien des Norvégiens, il va faire un petit tour à la Norvège. Donc, il va commencer par Eidsvoll, où il va réunir des proches à lui. Donc, c'est un petit bled à 1h30 de Oslo. Ensuite, il va passer à Trondheim, à Røros, à Oslo. Également d'autres petites villes, et il va s'assurer effectivement que le peuple le soutient et souhaiterait l'avoir comme souverain. Alors du coup, lui, il pensait plutôt être souverain absolu, et ça plaît pas trop aux élites économiques, politiques et militaires, et qui vont demander en fait finalement une constitution et que le roi soit élu.
Okay.
Et on va prendre du coup la décision de convoquer une élection de délégués qui devront constituer une assemblée constitutionnelle, et c'est celle-là qui devra contribuer à la rédaction de la constitution et à sa validation à la fin.
Mais du coup, entre tout ça et comment on y vient à cette fête nationale en 1814 ?
En mai 1814. Alors du coup, on va construire d'abord l'assemblée de février à mars 1814. Donc on va faire le tour des villes. On va élire progressivement les différents délégués qui seront membres de l'assemblée constituante. Et du coup, en avril 1814, on se retrouve avec 112 représentants qui se retrouvent à Eidsvoll, encore une fois. Qui vont du coup discuter pendant un certain temps. Alors on a choisi Eidsvoll parce que la ville est assez proche d'Oslo, donc pour information, en ce moment en train c'est à 1h15 d'Oslo, mais c'est assez accessible même en calèche, et là en mai 1814 on avait encore de la neige forcément, et on avait aussi de la neige fondue.
Slush,
exactement. Ouais. Et aussi, surtout, on était loin des amis suédois qui pouvaient quand même venir envahir venir prendre le contrôle ou attaquer la Norvège d'un moment à l'autre. Donc, c'était un endroit plutôt sûr. On va avoir deux parties qui vont dans l'assemblée. Du coup, on va avoir deux parties qui vont se dégager. On va avoir un parti qui est en faveur d'une union avec la Suède. Donc, la Norvège aura sa constitution, mais du coup, on sera quand même en union avec la Suède. C'est plutôt composé de riches et de marchands qui trouvent ça vraiment très dangereux de se mettre à dos la Suède, parce que du coup on risque une invasion et une guerre, et du coup des pertes matérielles, entre autres. Et après on a un côté aussi, plutôt un côté majoritaire qui défend une Norvège indépendante. Donc finalement, on a un comité qui va être élu pour rédiger la constitution. Et la constitution va être soumise au vote de l'Assemblée qui est validée et qui sera datée du 17 mai 1814. Et Christian Frédéric est en même temps élu roi de Norvège.
Ben voilà, donc tout est bien qui finit bien.
Alors oui et non, en fait, parce que la constitution, proclame la Norvège comme un État indépendant de la Suède, donc, qui commence de son côté aux Celtons. Alors du coup, pour se protéger, les Norvégiens vont essayer de s'assurer du soutien international. Donc notamment au niveau de la Grande-Bretagne, on va avoir des voix d'opposition au Parlement anglais qui vont essayer de défendre l'indépendance de la Norvège. Ils vont aussi pousser auprès d'autres grandes puissances de l'époque, avec l'Autriche et la Russie notamment. En parallèle, on a des négociations qui se tiennent avec la Suède, où la Norvège essaie de ressortir indépendante, enfin cette de convaincre la Suède de la laisser indépendante. Bon, finalement, ça ne marche pas. Et la Suède, à la fin, perd patience et va envoyer son armée. Alors, l'armée norvégienne n'est pas forcément très aguerrie, donc ils vont se faire pas mal de défaites, notamment à Frederikstad, d'ailleurs. Parce qu'ils vont même fuir Frederikstad parce que de peur de l'armée suédoise. Ils vont quand même résister un petit peu. Et ça va permettre à la Norvège de s'en sortir, certes, un peu affaibli, mais en tout cas avec une constitution. Parce qu'on a un accord qui va être signé avec la Suède, qu'on appelle la Convention de Moss, du coup le 14 août 1814, donc qui établit que la Norvège sera bien intégrée, sera bien en union avec la Suède, pas de bol. Le roi Christian Frédéric, qui voulait se faire élire roi, doit abdiquer. Il va rentrer au Danemark, et le Parlement norvégien, qui va quand même exister, mais devra voter en faveur de l'union. Ils comprennent facilement qu'ils n'ont pas trop le choix. Et...
Ouais, un peu de pression.
Et du coup, en septembre 1814, ils vont voter en faveur de l'Union. Voilà, merci. La Norvège va pouvoir conserver quand même la constitution qu'elle avait rédigée à Eidsvoll, du coup, pour laquelle les parlementaires ont voté. Simplement, ils vont devoir un peu l'amender pour permettre à la Suède pour permettre l'union du coup avec la Suède. Et on va avoir la Suède quand même qui va être moins présente du coup dans la conduite des politiques en Norvège, parce que du coup, le roi suédois va surtout s'occuper finalement uniquement des relations étrangères, donc des deux pays. Mais du coup, s'il veut partir en guerre, il va devoir avoir par exemple la validation du Parlement norvégien. Donc ça reste une sortie. Alors, on peut imaginer que les Norvégiens sont un peu amers, certes, mais ils s'en sortent avec une constitution, ce qui les amène du coup à fêter ce fameux 17 mai 1814. Et j'ai vu une petite ironie aussi dans l'histoire. C'est qu'en 1818, le roi de Suède, du coup, qui règne sur la Norvège et la Suède, décède, et on va avoir son successeur qui va prendre le pouvoir. C'est un fils qu'il a adopté. Et c'est un ancien ministre en fait de Napoléon. Il s'agit de Jean-Baptiste Bernadotte. Donc on se retrouve du coup avec une Norvège avec à la tête un roi français.
Ah oui, ça c'est pas banal.
Mmh. Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de mots français. Genre chauffeur ou tout ça.
Tu penses que ça vient de ça?
Ah oui, c'est certain même. C'est prouvé. Ça vient d'abord du suédois du coup. Ah ouais, et ensuite des Norvégiens.
Ah ouais.
C'est intéressant cette histoire, parce que j'ai toujours cru que c'était la fête de l'indépendance au final de la Norvège.
C'est la présence, je pense, en partie de Jean-Baptiste, comment ?
Bernadotte.
Bernadotte, de Jean-Baptiste Bernadotte.
On ne peut pas l'inventer, celle-là.
Mais l'indépendance, ouais, ça arrive plutôt en 1906, je crois.
C'est bien plus tard. Ouais. Parce que je pensais que c'était un peu le signe, ouais, on est libre des Danois, on est plus.
Mais du coup, en fait, le souverain suédois qui règne du coup sur la Norvège entre 1814 du coup et 1818, c'est Karl Johan. Ouais. Et du coup, il y a une statue de lui devant le Parlement, je crois. Il y a même du coup la fameuse Karl Johan
Gata.
Ouais. Et en fait, le souverain, même si du coup il est suédois, il a quand même assez apprécié. Il a quand même été assez apprécié en Norvège. Donc c'est pour ça qu'il a encore une place dans la.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont réussi à plus ou moins pacifier les débats au bout d'un moment? Ils se sont dit bon.
Faut que t'enquêtes.
Faut que je continue.
On veut la suite.
Merci d'attiser ma curiosité.
On veut la suite. J'ai une question subsidiaire, mais est-ce que Stockholm était toujours la capitale de la Suède, ou est-ce que c'était du coup, enfin, pourquoi ils ont envahi par Frederikstad?
Je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique à faire, en fait, parce que pour moi, la Norvège et la Suède, ils sont séparés par des montagnes, pour moi, les reliefs.
Des forêts même. Mmh.
Pour moi, les reliefs, ils sont plus importants au nord, en fait. Et de toute façon, la Norvège, elle est contrôlée depuis le sud de la... depuis le sud du pays, donc ça faisait, je pense, plus de sens d'envahir par le sud. Enfin, en tout cas, si j'étais souverain, j'aurais fait ça.
Alors, on écoute. Ouais, ouais. Au niveau stratégique...
mais je crois que mais c'est pas la première fois qu'ils se font envahir par, cette, par ce côté-là, en fait. C'est un peu leurs Ardennes, j'ai l'impression. Genre,
parce que... Ah là là, ouais.
Mais sinon, par contre, pour revenir au Bunad, j'ai appris qu'il y avait, enfin, du coup, on parlait du prix du Bunad qui était beaucoup trop cher. Et du coup, il y a un petit moment de, y a, enfin, il y a un peu de contestation vis-à-vis de ça. Et il y a ce qui s'appelle les Bunad de, je crois, de fête, si je traduis
ouais,
littéralement.
Ouais, Festdrakt. Mmh. Ouais.
Et ça, enfin, il y en a qui vont porter ça un peu par protestation quant au prix des Bunad. Et
ouais.
Il y a des choses à voir. Ouais.
Ben, alors, je cite ma professeure de norvégien de l'année dernière qui disait que les Festdrakt, c'est réservé aux étrangers. Donc, entre guillemets, que les étrangers n'avaient pas le droit d'avoir une Bunad, puisqu'ils sont pas nés de telle ou telle région, d'où origine ta Bunad. C'est-à-dire que si tu, ta famille est de Veslana, ben, t'as ta Bunad, même si tu vis plus à Veslana, le fait que tu...
Ben, elle s'hérite, en fait, hein, souvent, quand même, de mère en fille, de grand-mère en fille, de...
etc., etc., etc.
Donc, oui, c'est une part d'héritage aussi.
Donc, l'explication de pourquoi on adapte la fête pour les étrangers qui veulent se sentir un peu inclus, ils ont l'autorisation, ils auraient l'autorisation de se procurer une Festdrakt ou de se la confectionner eux-mêmes. Bon, alors, si on n'est pas fort en couture, faut s'accrocher. Mais j'ai trouvé, je trouve ça très compliqué de savoir quoi porter pour le 17 mai. Je sais jamais comment...
Bah, c'est comme quand tu vas à un mariage en France, en fait. Hein.
Moi, c'était costume.
Ouais, c'est ça. C'est juste l'élégance.
Ah, mais moi, j'ai pas de robe de soirée, tu vois. J'ai pas de... Donc, bon,
bah, là, c'est comme quand tu vas à un mariage.
Mais moi, j'ai fait deux mariages dans ma vie.
Et bah, tu ressors la même robe. Hein, qu'est-ce que...
Tu ressors ta robe d'il y a 20 ans.
Voilà, ouais, tu ressors ta
non,
robe.
C'est vrai. Non, mais j'ai trouvé au final de juste coordonner avec les couleurs de la Norvège et ça passe.
Ça passe, voilà. De toute façon, voilà. Il suffit d'amener un gâteau ou un truc et puis ça passe.
C'est pour Emma qui a passé 11 ans en Norvège. Trouver un Bunad qui est de la Provence, c'est un peu compliqué, quoi.
Non, puis je viens pas du tout de Provence, en plus.
Mais non, en Bourgogne, ils ont. Bah oui, non, ils ont pas leur truc en Bourgogne, là. C'est quoi le costume traditionnel de...
C'est une bonne question. La Burgonde.
La Burgonde.
Ouais, j'ai pas l'historique de la Burgonde, pour le coup, mais bon, hormis quelques fêtes de village, j'en ai pas non plus vu beaucoup dans ma vie. On est un peu moins sur la tradition, on va dire, hein, dans nos chères terres natales.
Ben c'est ça, c'est ce que je me faisais la réflexion, c'est que il y avait cette culture avant,
ouais.
De région, quoi, vraiment de culture régionale et de langue régionale, etc. Et c'est vrai que ben moi je saurais même pas dire en Occitanie quel est le comment on s'habille ou comment s'habiller
traditionnelle. C'est vrai que les Bourguignons, pour le coup, c'est vrai que les Bourguignons n'hésitent pas quand même à cultiver un peu la culture et il y a quand même, comme il y a des vieux châteaux, des vieux trucs, il y a toujours un peu des fêtes médiévales, des voilà, oui. Tu vois, c'est un peu la Saône-et-Loire et la Bourgogne, c'est un peu voilà le temple des lieux médiévaux, hein, Dijon, tout ça, donc oui.
Ouais, donc
il y a encore quelques
des irréductibles voilà. Gaulois. Non mais les chers auditeurs, si vous avez envie de partager avec nous
de nos régions.
Oui, l'histoire de nos régions, est-ce que c'était quelque chose de présent dans votre région natale en France et est-ce que ça vous paraît bizarre les bunades en Norvège? Ça peut être sympa d'en parler.
Tout à fait. Ouais.
Sur nos réseaux sociaux, donc on a Facebook et Instagram, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un artiste qui chante en norvégien, mais qui a un nom plutôt hispanique. C'est Sutton Omai de Ramón. Eh bien, de retour dans notre émission de Brisons la glace. On était un peu occupés hors antenne, mais on s'y retrouve. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs vous l'avez vécu, mais c'était un peu une grande surprise. Si vous n'étiez pas au courant, le mercredi dernier, c'était le 12, c'est ça ? Il y a eu cette alarme gigantesque dans toute la Norvège.
Ouais, sur tous les téléphones de tout le monde.
Tous les téléphones, les alarmes, les sirènes de la ville ont retenti ouais. À midi.
Voilà, voir si leur système de... C'était un test hein, pour voir si les systèmes d'alarme en cas d'attaque de la Russie ou je ne sais quoi. Voilà, en cas de... d'attaque nucléaire, je ne sais quoi. Bon, bref, qu'on soit
donc
tous prévenus.
Donc tout fonctionne.
Donc tout fonctionne.
Tout
moi,
a bien
j'étais
fonctionné.
Dans un bus. On a tous bien eu les oreilles explosées. Le bus a dû s'arrêter d'ailleurs. Ouais.
Mais qui c'est qui a fait le bruit ? C'était le bus qui a klaxonné.
Tous les téléphones de tout le monde.
Ah oui.
Mais le bus était plein. Autant te dire que.
Oui, mais c'est pas le bus qui s'est mis à klaxonner aussi.
Non, je ne l'ai pas mis à klaxonner, mais je. Enfin bon, j'étais pas près du chauffeur, mais j'ose imaginer que le chauffeur avait un. Un téléphone lui aussi, donc je sais pas.
Oui, il a été briefé au moins, j'espère, ouais. Pour pas avoir un accident.
Moi, est-ce que t'avais vu l'information pour te prévenir ?
Alors, Suzanne. Moi, j'ai vu un bref, quelque chose passer sur les réseaux.
C'était un mail.
Un mail ?
Ouais.
Ouais. Mais ça m'était sorti complètement de la tête. Et en plus, j'avais mon téléphone dans la main et je cherchais un truc complètement aléatoire. Et là, le truc, il s'est. Il s'est mis à vibrer. C'était un peu angoissant. Ouais.
Le téléphone s'est mis à vibrer.
Ah ouais, ça.
Toi, t'étais en télétravail, t'étais pas au travail, du coup, j'imagine. Hein.
Ah, mon bureau français, moi. Donc, non, j'étais en Norvège, mais j'ai pas.
Et t'as rien entendu.
Je sais pas où j'étais à ce moment-là. Ouais.
Ouais.
C'est suspect, ça, Valentin.
Valentin dort au travail, on ne sait pas ce qu'il fait.
Ah, tu pouvais pas le manquer quand même, hein. Ouais. C'était assez traumatisant. Alors pourquoi ils font ces alarmes, ces tests ?
Bah, je pense en tant que c'est au cas où qui est.
Est-ce que c'est chaque année ? Parce que c'est.
Ah non, là comme ça c'est la première année.
C'est spontané. C'est...
Ouais. Bon après on a tous, quand on a été en entreprise norvégienne, il y a évidemment des tests d'alarme incendie,
oui,
des choses comme ça. Mais là à cette échelle-là, moi personnellement, je n'avais jamais vécu.
Ils ont pas l'habitude d'avoir le petit coup de sirène en début du mois, premier mercredi du mois, non ?
Alors, pas tous les mois, mais il y a un petit coup de sirène, oui, je pourrais pas te donner la fréquence, mais il existe, ouais.
Et donc, dans ce même ordre d'idée, il y avait un porte-avions américain.
Oui, du coup, qui est venu, je crois, enfin, avant le. Ouais, je pense, la dernière semaine de mai, il y a un porte-avions américain qui s'est ramené dans la baie d'Oslo et qui a tranquillement posé l'ancre, jeté l'ancre, du coup, près de Malmøya, donc une presqu'île qu'on accède depuis Ekeberg Park.
Ah ouais, c'est bizarre, pourquoi ils se sont mis là ? C'est parce qu'il y a la place ?
Ouais, je pense que c'était une question de profondeur, et puis après le bateau était. Bon, je n'ai pas l'arrivée des bateaux de croisière, et puis l'activité du fjord en général. Quoi. C'est vrai, quand on va là-bas en hiver, l'eau est glacée.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et non, mais moi du coup, j'y suis allé pour voir par curiosité. Il y avait un périmètre d'un kilomètre qui était établi autour du porte-avions. Ouais, c'était sous surveillance de la police, des bateaux de police. Et il y a une personne très intelligente qui a ouvert un stand de gaufres sur la presqu'île. Voilà, c'est juste.
Ça t'a marqué.
Et non, tout ce qui m'a marqué aussi, c'est que du coup, on s'attendait. Enfin, là, on parlait de 5000 marins, en fait, dans
un porte-avions ?
Dans le porte-avions. Et du coup, c'était un peu la crainte en centre-ville, c'est de voir débarquer 5000 américains dans le centre-ville. Bon, alors du coup, je pense qu'ils y sont allés par vagues, en fait. Donc en alternant. Et les liaisons, du coup, se faisaient par les bateaux électriques qu'on utilise pour se rendre sur les fameuses îles, du coup.
D'accord, le ferry là.
Le ferry électrique qui arrivait. Qui permet de se rendre compte du gigantisme, de la taille gigantesque du porte-avions. Du coup, on avait le petit ferry électrique qui se ramenait derrière le porte-avions. Et le porte-avions qui baissait un espèce de pont. Et du coup, comme
ça. Il y a des marins par milliers comme ça dans la ville.
Ouais, du coup.
Chaud patate.
Ouais, après c'était. Ouais, mais moi je pensais que ça allait être une énorme vague, mais en fait, bon, ça va, apparemment, c'était pas trop la panique.
Et donc, c'est plutôt des relations diplomatiques, des discussions.
C'est le plus gros porte-avions au monde, et c'est le premier. C'est un des derniers des États-Unis, en fait, c'est le plus récent. Et du coup, il a besoin de s'exercer. Bon, après, je pense qu'il y avait aussi des questions géopolitiques derrière aussi, dans le contexte actuel. Mais du coup, le porte-avions, il est venu à Oslo, et puis après, il est parti vers les Svalbard, je crois, pour un exercice.
Tout près de la Russie, c'est étonnant.
Oui. Tiens donc, hein.
C'est marrant, quoi.
C'est pas comme destination, ouais. C'est, ouais. Oui, c'est particulier.
Ah, c'est des drôles de coïncidences.
Mais du coup, apparemment, ça a déclenché des débats, dans la télé, dans la presse. Hein,
ça pose un peu quelques questions, forcément.
Le débat.
De l'ingérence américaine sur la politique locale.
C'est ça, et puis la dangerosité d'avoir Bon, je pose des questions, donc je crois que c'est un porte-avions nucléaire. Du coup, il y a le porte-avions qui est nucléaire, après quelles armes il transporte, toutes ces questions-là qui s'amenaient.
On ne nous dit pas tout.
On ne nous dit pas tout.
C'est la conclusion.
on ne nous dit pas tout.
Mais c'est bien parce que ce sujet va faire une excellente transition avec notre page inédite. On n'a jamais fait ça, mais on va faire une section militant.
Une section militant. Moi, j'avais un petit morceau pour commencer.
Vas-y, mets-nous ce morceau. Oh.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat.
Aïe, 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 aïe.
Toute ma jeunesse. Hein.
La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe.
Bon, est-ce que vous avez déjà remarqué, donc on va parler de chocolat, surprise générale, et de militantisme. Est-ce que, en vous baladant à Grenoble-Loca, vous avez déjà remarqué une petite odeur de chocolat?
Non.
Eh oui, il y a la fameuse usine Freya de chocolat. Moi, j'ai habité à Grenoble-Loca, j'ouvrais mes fenêtres. Comme ça, il y a des effluves magnifiques qui s'échappent. Et là, on imagine que toutes ces barres chocolatées qui sont dans les supermarchés norvégiens sont fabriquées avec amour dans cette magnifique petite usine où il y a même une toile secrète de Munch et tout ça. Bon, bref, c'est un endroit génial. Les usines Freya, on adore leurs barres chocolatées, on adore tout.
Il y a un logo qui tourne à l'entrée aussi.
Voilà. Donc, grosse fierté norvégienne, les chocolats Freya. Sauf que, ils n'appartiennent, il y a quasiment plus de parts norvégiennes dans les propriétaires de Freya. Freya, donc, appartient à Mondelez. Ok, donc vous connaissez Mondelez? Non, normalement on dit. Oh non, je connais pas.
Non,
mais
en fait,
leur maison mère c'est Kraftfood, la plus grosse, propriétaire de bouffe américaine. Et donc chez Mondelez, on retrouve des marques pas du tout connues, hein, Cadbury, Oreo, Toblerone, et chez nos amis français, Côte d'Or, les chocolats Milka, les biscuits Belin, les biscottes de verre, les bonbons lavogiennes, les Hollywood chewing gum, et donc Freya.
Ah.
Et alors, quel est le problème avec nos chers producteurs de Quick Lunch et de Yap et autres barres chocolatées? Alors en fait, Mondelez est sur la liste rouge des compagnies flaguées par l'Ukraine parce qu'elles continuent d'opérer avec la Chine, où il y aurait 3 usines de chocolat Mondelez, donc outre leurs usines dans le monde, qui continuent d'opérer tout tranquillement. Alors que là, on rappelle encore une fois que quasiment toutes les boîtes américaines ont quitté les territoires russes. Donc il y a un boycott qui est en train de commencer pour Freya. Donc ça a été la compagnie aérienne SAS qui avait donc offert des chocolats Freya et des Yap et autres Quick Lunch dans ses avions, a retiré tous les chocolats. C'est fini. Oh. Et donc on attend la suite. Ça vous inspire quoi?
Ah, moi je suis interloquée. C'est vrai que j'avais cette image de fierté norvégienne. C'est un chocolat. Mmh. J'adore le chocolat, il est vraiment bon.
Les glaces au chocolat Freya sont hyper bonnes.
Ah, j'ai pas goûté.
Fais chier, c'est mes préférés. Fais chier.
Oh. Ouais, ça laisse un goût amer de se dire, mais en fait, non, même les choses les plus authentiques, qu'on pensait authentiques,
Et on raté. Moi qui croyais qu'Hollywood chewing gum, c'était à Hollywood.
Que Côte d'Or, c'est en Côte d'Or.
Oh là 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 là. Que le chocolat Milka était fabriqué en Suisse.
Mais du coup, pourquoi maintenant ce boycott, est-ce que c'est pas une info qui était, c'était une info secrète ou c'était, enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
J'en sais rien, mais en tout cas, SAS a décidé, de réagir. Je sais pas, peut-être que quelqu'un a typé, on va dire, le.
Je pense que l'Ukraine, du coup, elle s'est rendu compte qu'il y avait encore des activités. En fait, c'est arrivé sur la liste noire ukrainienne, c'est ce qu'on a dit.
Ouais.
Là-dessus, on a aussi L'Oréal et Yves Rocher, en fait, qui sont dessus.
Ah, Yves Rocher aussi?
Et L'Oréal, ouais.
Ah merde.
Et
L'Oréal, je m'en étonnais, mais.
Ouais, mais du coup, c'est ce qui se passe après. C'est ce qu'en fait, du coup, on a SAS qui a boycotté. Bon, après, derrière, ça fait effet domino.
Il y a bien sûr.
Enfin, d'autres compagnies qui ont commencé à arrêter de vendre ces produits-là. On a commencé à avoir des promos dans les yokers aussi.
Ah bon?
Pour les frilards, j'en ai vu, ouais. Et après, ce qui se passe, en fait, du coup, il y a d'autres produits, en fait, qui sont, en fait, Mondelez, comme dit, c'est un grand groupe. Et du coup, en fait, c'est Freya qui se prend le boycott en ce moment. Mais du coup, ils se demandent pourquoi il n'y a pas les autres marques, détenues par Mondelez, du coup, en Norvège, qui ne sont pas aussi boycottées.
Oui, parce que c'est un peu ridicule de dire on boycotte que Freya alors que tous les autres.
C'est emblématique de la Norvège aussi, c'est peut-être aussi.
Oui, c'est ça. Et puis dans SAS par exemple, ils ont, ils mettent en avant les produits scandinaves
qui n'en sont pas du coup.
Donc qui n'en sont pas. Donc voilà, ça rentre, j'imagine, plus dans la charte.
Et du coup, ce qui peut encore se passer, c'est que les autres entreprises sont sur la liste noire ukrainienne, comme L'Oréal et Yves Rocher, elles y passent aussi en fait un moment. Mais c'est peut-être une question de temps après. Laissons le temps de nous donner raison. Mais...
Ah, du coup, je me faisais une joie. J'avais envie de goûter leur pâte à tartiner, mais c'est fini. Je vais pas pouvoir.
En fait, c'est l'étiquette.
Oh. Bah ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est la déception, moi aussi. Moi qui ramenais ces chocolats Freya que ma mère adore au Quick Lunch. Ils se sont fait. Souviens-toi quand tu es venu me voir quand j'habitais à Grenerloca. Là, cette belle petite usine.
Et du coup, il y a des manifestants, localement, il y a des choses qui se passent ou...
Ah, écoute, j'ai pas encore vu de manifestants, j'ai vu personne en tout cas protester ou qui vide à côté, mais.
Là, il y a juste des ouvriers, du coup, après, c'est toujours comme ça que ça se passe quand il y a des boycotts qui se produisent, mais il y a, du coup, il y a des ouvriers qui, forcément, qui craignent le chômage technique ou
Oui.
Ouais.
Ils peuvent pas reprendre le contrôle de racheter, enfin.
Ça met du temps, je pense.
Ah bah je sais pas.
De rapatrier la fierté nationale.
C'est une fois que tu as vendu à un grand groupe, en même temps ils t'ont donné plein de millions normalement, donc.
Ouais.
Après tu la ramènes plus.
Ah quel dommage. Je voulais vous parler d'un deuxième thème que j'ai un peu découvert par un podcast que j'adore qui s'appelle Les Pieds sur Terre où ils ont évoqué la journée du 14 juin comme lutte féministe en Suisse. Et en fait, c'est une journée de grève, donc en fait, les Suissesses, à partir de 15h24, arrêtent de travailler le 14 juin, parce que, du coup, elles estiment qu'après 7h de 15h24, elles ne sont plus payées, comparées aux hommes. Donc c'est une journée qui s'est transformée depuis quelques années en une journée de revendications, elles vont dans la rue, il y a des actions, des grosses revendications pour les salaires minimums qui sont différents, et plein de choses donc c'est est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Non mais du coup on parle d'un
une journée de mobilisation
Cette date-là a été choisie parce qu'à partir de ce moment-là parce que ça présente un écart entre de salaire du coup entre
alors non ça arrive quand même plus tard dans l'année merci Valentin je crois que la différence de salaire
oui ça serait un peu
elle arrive quand même bien plus tard dans l'année, Dieu merci. Ouais, puis en Norvège, on n'est pas si mal lotis.
Mais c'était en Suisse.
Mais là, c'était en Suisse, mais je pense qu'en Suisse, ça va, ils sont pas trop mal lotis non plus, a priori.
Mais du coup, on a un écart de...
Alors, le 14 juin 1981, c'était le vote populaire sur l'article constitutionnel relatif au principe de l'égalité qui a été accepté. Mais du coup, dans les faits, ça marche pas, il n'y a pas d'égalité de salaire. Donc,
D'accord.
Donc, en fait, c'est 10 ans plus tard, en 91, qui a eu un premier appel à une grande grève des femmes qui a été lancée. Voilà. Et je pense que c'est un peu stoppé et vraiment ça a repris en 2011. Et puis la marquante, ça a été en 2019 avec plus de 500 000 personnes qui ont manifesté. Voilà, donc c'était, je pense que c'était une lutte assez importante à signaler.
Mais tout à fait.
Voilà, et puis c'est, enfin le podcast, en tout cas, je vous le recommande également, de Des Pieds sur Terre. Donc ils ont interrogé des femmes et un adolescent, un mec, et c'était super intéressant de les écouter tous les trois, d'avoir un point de vue sur la question. Et c'est là que je me suis rendu compte, vraiment, les hommes, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils comprennent pas, en fait, le principe de l'égalité homme-femme. Il y a beaucoup de débats aussi par rapport au sport, qu'il y a des revendications d'égalité salariale par rapport aux sportifs pros. Parce que bon, la différence entre salaire homme et femme est énorme.
Rien pour le foot, là.
Exactement. Le foot en étant un exemple, mais bon, c'est un peu partout pareil. Et en fait, ils disent, oui, mais de toute façon, les femmes, elles sont pas autant performantes que les hommes. Le jour où elles attireront autant de spectateurs que les hommes, là, on pourra en reparler, etc., etc. Sauf que c'est le même métier. C'est le même engagement. C'est la même professionnalisation. Les mêmes contraintes. Après, le fait qu'elles ne soient pas aussi vues, aussi regardées, c'est pas forcément leur faute non plus. J'ai envie de dire, si c'est le même métier, ça devrait être payé au même... peut-être pas égalité, mais au moins que l'écart soit pas de quadruplé 10 fois, 20 fois, voilà, c'est celle des hommes.
Pourquoi pas faire des équipes mixtes?
Oh, les équipes mixtes, ouais, ça pourrait être intéressant. Ils font déjà des matchs hommes contre femmes. Je sais qu'en tennis, il y avait un match...
Ah oui, il y a des doubles mixtes.
Double mixte, ça c'est, ouais, ça c'est déjà fait, mais ils ont déjà fait un match individuel, un homme contre une femme, et c'est la femme qui avait gagné.
Tiens.
Alors, faut que je retrouve la...
Là, ta performance,
tiens, Abramovich. Non, pas Abramovich.
Ah, je sais plus, mais c'était à, je parle de ça, c'était il y a peut-être, c'était déjà quelques années. Oui, c'était un match d'exhibition. C'est ça. The Battle of the Sexes. En 1973. Donc qui a opposé bon, alors ça peut aussi, on peut en débattre. Donc c'était un Bobby Riggs qui avait 55 ans et Billie Jean King qui avait 29 ans. Donc on peut dire c'est pas le même âge, mais en tout cas elle a gagné
55 ans, on est quand même largement sur la fin de carrière là. Hein.
Voilà.
Enfin, en tennis professionnel, j'entends. Non, pas qu'une personne.
Donc, il y a eu 3 matchs. Bobby Riggs a gagné contre Margaret Court. Il a perdu contre Billie Jean King. Et justement, une tennis woman très connue, Martina Navratilova, qui avait perdu contre Jimmy Connors. Donc ça, c'était plus récent. C'était, ils ont en 3 éditions. Deux en 73.
80, ça va être...
En 92, ouais. C'était le dernier...
90, même.
Le plus récent Battle of the Sexes, number 3. Voilà. Donc c'était la deuxième...
Valentin n'était même pas né.
Non.
Ouais, bon, j'avais 3 ans. Ah, ça donne la pêche, hein.
Bienvenue dans Brisons la glace.
On résiste. Alors, tu voulais nous parler des petits oiseaux?
Moi, je voudrais vous parler des mouettes.
Des mouettes.
Vous savez, ces animaux là qui font.
À moi.
Qui font beaucoup de bruit.
Moi.
Qui font caca partout, qui s'attaquent à nos poubelles dans le centre d'Oslo. Ouais. Bon, voilà, on les trouve un peu relous, les mouettes, mais savez-vous qu'elles sont en voie de disparition?
Eh ben non.
Et voilà. Et alors, dans le nord de la Norvège, dans le Troms, au-dessus du cercle polaire, donc largement au-dessus, région des Lofoten jusqu'à Tromsø, c'est la catastrophe. Depuis les années 80, on a perdu 75% des mouettes.
75%?
Ouais. Et on les appelle donc dans le Grand Nord, c'est les mouettes dites tridactyles. Pour voilà, c'est le plus marin des oiseaux de la famille.
Parce qu'elles ont 3
laridés.
Doigts, c'est ça? Tridactyles?
Probablement. Bonne remarque de Suzanne Rochette ici. Et donc, alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Alors avant, en fait, elles nichaient dans les falaises. Et puis bon, elles sont en mouvement quand même perpétuel entre les îles Féroé, la Norvège, l'Angleterre. Enfin bon, bref, elles étaient des milliers et des millions. Et donc là, bon bah, elles ont leurs habitats qui se transforment complètement. Donc pourquoi? Ouais. Le réchauffement climatique, bien sûr. Qui du coup crée une intensification des tempêtes, ce qui fait que bah, leurs niches dans les falaises sont de moins en moins accessibles. Et ces oiseaux qui évitaient quand même globalement les villes avant pour se nourrir dans la mer le plus possible, en fait, bon bah voilà, elles se rapprochent de plus en plus des villes et donc Tromsø, ça peut être un véritable fléau. On parle. Ah ouais. D'une cantine envahie, d'un cabinet de dentiste, enfin bon bref. Donc du coup, dans le Grand Nord, ils sont en train de créer des hôtels à mouettes pour aider les mouettes.
Oh
du
non.
Coup, ben non, parce qu'on est face
à la pauvre. Mais ouais, non, mais t'imagines, 75% éradiqué, presque. C'est
non,
une
mais
catastrophe.
C'est monstrueux, quoi. On est en train de dire que d'ici 40 ans, il pourrait ne plus y avoir de mouettes.
Est-ce que c'est vraiment un truc mauvais? Non, je plaisante.
Ouais. Et alors, le grand problème, surtout, c'est que les mouettes, elles sont décimées. Ce qui fait qu'elles sont décimées, c'est dès leur plus jeune âge, justement, à cause de ce problème d'habitat, de tempête, d'humains, enfin bon, bref. Parce que les gens... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté une attaque de mouettes.
J'ai vu des gens en revenir.
Ah, tu as vu des gens en revenir. Ouais. Moi, personnellement, tu vois, quand justement tu es dans le Grand Nord... Plein mois de juillet, août, au moment des pontes, tu vois, où elles ont leur nid.
Ah oui, là, ça attaque, ouais.
Ah bah là, ça attaque. C'est-à-dire ouais. Que toi, t'es là, oh, c'est beau, je vais me promener par là. Et d'un coup, genre, bim, t'entends un gros cri. Et elle est là, elle te tourne autour. Et donc, bon, bah, vous connaissez. D'ailleurs, savez-vous quoi faire en cas d'attaque de mouette?
Tu lui donnes tout ton argent. Tu laisses tout.
Alors déjà, dans ça m'est fou quoi faire.
Je suis pas au con.
Valentin, si jamais. Comme ça, tu es en pleine nature, tu te balades, hop, attaque de mouette. Qu'est-ce que tu fais?
Bah, soit je me défends et genre j'agite les bras.
Exactement, mais exactement.
C'est vrai. Bon réflexe. Je suis une mouette, moi aussi, mais plus grande.
Bon réflexe, c'est la seule chose à faire, courir comme un dératé en agitant les bras. Et là, tu peux être sûr que bon, bah, la mouette, tu lui fous les chocottes.
Mais dans sa direction ou en partant?
Bah, alors, le truc, c'est qu'il faut quand même repérer plutôt où est le nid. C'est-à-dire aller en direction opposée. Donc, oui. Du nid de la mouette, faire un détour si besoin, ouais. Ne pas non plus jouer trop avec la mouette.
Mais du coup, elle niche où maintenant, si elle niche plus dans les falaises?
Ben alors, justement, alors on leur crée des niches dans les falaises. Donc, on crée des hôtels à mouettes, des sortes de bâtiments où on espère qu'elles vont venir se reproduire. Alors, c'est pas que un franc succès. Aux dernières statistiques, mais enfin ça augmente.
C'est un business qui débute. Hein.
C'est un business qui débute.
Comme ça.
Ouais. Mais parce que, est-ce que les mouettes, les bébés, est-ce qu'ils reviennent du coup à leur lieu de ponte pour se reproduire?
Bah, s'ils survivent.
Parce que je sais que les fous de bassin, là il y avait un. Je suis allée au.
Quoi?
Les fous de bassin, c'est un type.
Les hirondelles font ça aussi.
Et en fait, ouais. C'est hyper hyper impressionnant au Québec. Ils ont une grande île où il y a ils sont tous les uns sur les autres. D'accord. Parce qu'en fait, ils naissent là et en fait après ils doivent se reproduire là. Et donc en fait, ça pullule de fous de bassin. Bref, c'est d'accord. Impressionnant de Moi je me demandais pour si les mouettes avaient le même même genre de comportement. Est-ce qu'ils associent grande importance au lieu où ils sont
doute,
nés? Est-ce
que les hirondelles font ça aussi, je sais. Ouais. Mais je suis pas une spécialiste. Là, j'avoue, je...
Faut qu'on appelle un expert de
mouettes. J'ai pas poussé la recherche.
Voilà.
Ni bretonne, où il y a des goélands.
Et oui, alors le goéland et la mouette n'ont rien à voir.
Bah, c'est deux espèces différentes.
Est-ce que les goélands sont aussi en danger alors?
Bah forcément, de toute façon, à l'échelle mondiale, on parle de quand même 70% des oiseaux qui sont en voie de d'extinction. Il y a de moins en moins d'oiseaux, ça c'est un fait. Alors la mouette, enfin en l'occurrence, la mouette tridactyle, elle est pas
farouche quoi. Ouais.
Non, elle fait même un peu flipper, elle peut un peu rappeler les oiseaux d'Hitchcock et tout. Hop, on est sur une attaque de mouette.
Sans crier gare.
Ouais. Sans crier gare.
Parce que du coup, ici, je vois des oiseaux avec la tête marron, ça c'est des mouettes.
C'est pas non, des goélands, c'est plus grand. Les goélands, ils sont plus grands
quand
même.
Ouais. Jeunes, non
et ça. Pour moi, les mouettes, elles sont plus petites et avec
les mouettes, elles sont blanches.
Bon, alors là, il faut.
Heureusement qu'on est pantélé, les gars.
Ah ouais, heureusement qu'on est pantélé, mais si on avait été en télé, on aurait eu des images, tu vois.
Goéland et mouette.
Non, la mouette est blanche.
Oui, c'est ça, le goéland est plutôt gris. Ah, mais non, t'as raison, alors du coup, ce qu'on voit en centre-ville, c'est des goélands.
Mm-hmm. Il y a aussi des oiseaux avec la tête marron.
Ah, bah alors là, il faut.
Peut-être des hybrides, j'en sais rien.
Une mouette et un goéland.
Alors, il faut reconnaître. Tu nous fais un quiz.
Alors,
un quiz. Alors, écoutons.
Hop. Ok, premier audio.
Est-ce qu'on peut écouter les deux et après on...
Deuxième.
Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Non, le premier, c'est la mouette.
Ouais, premier mouette.
Pour moi. Le classique.
Le classique. Là, on est bien au bord de la mer. Hein.
Ouais.
Le goéland.
Ouais.
Entre la mouette et le cochon. Hein.
Oui. On pourra mettre un audio de grenouille taureau la prochaine fois si vous voulez.
D'accord, mais parce qu'il y a aussi cette discussion que les éoliennes aussi sont dans le passage des migrations et des déplacements des oiseaux, etc.
Ouais, alors ça c'est encore un autre sujet. Est-ce que ça touche plus que ça
est-ce qu'il y a un champ d'éoliennes beaucoup plus important?
De toute façon, forcément, non. Enfin, moi, j'en vois pas de champ d'éoliennes en tout cas dans les Lofoten et le Troms où je vais habituellement. Mais oui. De toute façon, il y a des dégâts humains. À prendre en considération dans la disparition des oiseaux. Genre là, par exemple, les mouettes, comme elles se rapprochent des villes et que c'est quand même pénible quand elles sont pondues, hein, puisque elles sont vraiment en mode attaque,
ouais,
et que
c'est
protection, super relou.
Du coup,
les gens dégagent. S'il y a un nid qui se fait quelque part chez eux, ils le dégagent. Donc voilà, c'est trois oiseaux en moins, je sais pas. Mais voilà, donc il y a aussi, bien sûr, les humains qui contribuent pas...
Qui n'aident pas.
Donc voilà, avec les hôtels à mouettes, on espère quand même repeupler les mouettes. Enfin, voilà. Au moins, essayer qu'elles ne s'éteignent pas.
Oui, de contrer cette chute de 75%, il va falloir quand même agir, quoi. Concrètement,
ouais.
ça va prendre
de la dignité, quoi.
Et donc j'avais un petit morceau quand même pour illustrer tout ça.
Allez, illustrons.
Y a des chansons très sérieuses. Qui est notre chanteur le plus engagé en France?
Renaud Trio.
Non, une moustache.
Brassens.
Ah.
Allez, Jean Ferrat.
En fait.
C'est parti.
Alors, sans transition, des mouettes au don du sang, compliqué, mais je ne savais pas, enfin, je me rappelais que les homosexuels avaient été un peu beaucoup bannis de don du sang à cause du VIH, et je pensais que, depuis, le don du sang avait un peu ouvert ses portes à tous, mais en fait, pas du tout. Donc j'ai vu un article passer sur Aftenposten de la communauté LGBT qui dit on en a marre de cette règle. Donc la règle est que les hommes homosexuels ne peuvent donner leur sang que s'ils se sont abstenus de sexe pour un an.
Ah oui.
Donc ce qui fait que 96% ou 97% des hommes homosexuels ne donnent pas leur sang. Et donc ils trouvent ça injuste que... et alors donc hein qu'est-ce que oh là j'ai raté ta blague
j'ai dit ça fait curé
mais du coup c'est vraiment discriminatoire et voilà donc j'ai un peu cherché et c'est vrai que cette règle de un an d'abstinence elle est pas si farfelue par rapport aux autres pays européens. Il y a pas mal de pays qui sont hyper stricts encore pour le don du sang. la France en faisait partie.
Mais oui, ça a changé, mais l'an dernier.
Et ça a changé ça, l'an dernier. Ouais, donc, j'ai regardé, donc ouais. En janvier. Non, pardon, en mars 2022. Donc, depuis mars 2022, maintenant, ils peuvent donner leur sang. Bon, alors, bien sûr, ce qui revient souvent dans les autres législations, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles safe, quoi. Donc, si t'as un comportement à risque, bon, ben là, tu peux pas donner. Mais ce qui est finalement peut-être aussi la même chose pour les gens qui sont hétéros. Si on a plusieurs partenaires, on peut pas donner, quoi. Donc, voilà. Donc, il semblerait qu'en France, ça bouge, mais en Norvège, ben, malheureusement, c'est pas encore le cas. Très compliqué pour les hommes homosexuels de donner leur sang, alors que, en fait, tout le reste de la population peut le faire. Les lesbiennes peuvent donner leur sang. Voilà. Donc, c'est vraiment spécifique aux hommes.
On trust, ouais, oh, pardon.
On les croit pas.
On fait moins confiance aux hommes, j'imagine. Je sais pas.
Et voilà, donc après, il y a des périodes, je sais qu'il y a d'autres législations qui proposent 3 mois d'abstinence, qui est quand même un peu plus faisable, mais 1 an.
C'est un peu dur, quoi.
C'est un peu dur si t'es en couple, voilà, enfin. Bah, tu peux pas, quoi. Donc, c'était un peu le point coup de gueule.
Oui, puis je vois moyennement ça comme un objectif à tenir. Oh, cette année, je vais pas avoir de sexe.
Je vais donner mon sang.
Bah, ouais, enfin, c'est pas une super carotte, quoi. Hein?
C'est rare comme prêt, comme.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas ultra stimulant.
Ça peut être une bonne excuse.
Oui. C'est bon.
Non, mais voilà. Sachant qu'en plus, enfin. Parce que bon, moi, j'ai donné mon sang une seule fois, ça s'était très bien passé. Mais j'ai eu quand même l'impression qu'on nous attend, on est content de voir des gens qui donnent leur sang, parce que ben il y a des grosses lacunes, il y a des manques. Alors pourquoi on réduit des gens, enfin qu'on peut pas, ils peuvent pas donner parce que leur orientation sexuelle, quoi.
Ça, c'est un truc qu'on hérite des années 80, non? Il y avait l'histoire du sang contaminé. Et puis,
bah ouais, ouais, probablement.
Quand on n'a pas compris comment ça, enfin quand on n'a pas compris, j'étais pas né encore une fois, mais quand il y a eu le SIDA qui est apparu, et qu'on connaît pas trop les origines du SIDA, quoi. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a vu les populations sexuelles se faire. Ça mettre de côté.
Ouais. Je prends plus sang. Mais bon, il y a pourtant le SIDA touche encore des. Les gens non homosexuels, évidemment. Hein.
Mais ouais, quand c'est apparu, c'est.
Ouais, non, mais ça n'a pas de sens. On est entièrement d'accord.
Parce qu'après, dans certains
pays. C'est le moment de remettre résiste.
Parce que dans certains pays, ils prennent juste en compte le nombre de partenaires sexuels sur une certaine.
Voilà, période. Oui, quelle que soit l'orientation sexuelle. Complètement. Donc on espère que le fait que ça. Les débats ressortent, là, par rapport au mois des fiertés de mois de juin, peut-être qu'il y aura. Ça va peut-être bouger dans les lignes. Politique, parce qu'on trouve ça stupide de se priver, parce qu'en plus la population norvégienne est très. Enfin, c'est faible. Quelle est la proportion des gens qui vraiment donnent leur sang? Déjà, je sais même pas où est-ce qu'il faut donner son sang. En Norvège, à Oslo, où est-ce qu'on irait donner son sang? Parce que je sais qu'en France, c'est assez quand même présent, il y a des campagnes,
oui,
ils viennent avec. C'est beaucoup plus visible, on va dire.
Norvège. Je sais pas si on est rémunéré en Norvège, parce qu'il y a des pays où tu payes, tu reçois. Enfin, aux États-Unis, c'est le cas. Tu reçois de l'argent quand tu fais un don du sang, je crois.
Ok.
C'est un moment, mais.
Don du sang?
Ouais.
Ok. Parce que je sais que le don de sperme, c'est souvent rémunéré, mais.
C'est plus un don, du coup.
C'est un travail.
C'est ça.
Ouais, enfin bon, voilà. Donc, on va militer, on vous soutient. On espère que la législation va changer. En Norvège, sachant que aussi au Danemark, c'est complètement interdit. Donc là, c'est carrément banni pour les homosexuels de donner leur sang. Voilà. Donc il y a quand même du chemin à parcourir en Scandinavie. À quoi ça ressemble les vacances d'été à Oslo ou en Norvège?
Alors moi, j'ai fait le Grand Nord seulement, encore une fois, l'été. En général, je m'échappe d'Oslo, ce qui est. Mais je sens chaud faire l'inverse à cause de la température pour le coup. Je me norvégianise.
Ouais.
Mais dans le Grand Nord, c'est merveilleux. C'est le soleil de minuit, évidemment. Encore une fois, c'est les sorties en kayak sur les îles. C'est le vélo. C'est
la nature, quoi.
La nature,
dehors,
les randos. Ouais. Les barbecues.
Et en fait, les Norvégiens sont plus dans les villes puisqu'ils sont dans leur hutta.
Et voilà. Et alors, cette année, plus que jamais, vu que la couronne est quand même...
Se pète la gueule.
C'est bien pété la gueule. Du coup, moi, j'ai autour de moi tous les Norvégiens. Je n'en connais pas beaucoup qui partent à l'étranger pour les vacances. Hein. Cette année, c'est vraiment la hite, les bateaux.
Ouais. Ils n'ont qu'à s'occuper ici. Hein. Mais j'ai vu par contre le barbecue. Ils ont interdit le barbecue, je crois, dans la région d'Oslo.
Oui, j'ai lu ça.
Ah, oui, les risques d'incendie, là, c'est tellement.
J'ai reçu le mail avec pour les alertes incendie, du coup. Enfin, pour la restriction d'eau aussi.
Ouais.
Il va y avoir une alerte sécheresse. Vous aviez ça.
Mais après, t'as le droit de faire un barbecue dans ton backyard avec un barbecue. Hein. Oui. C'est genre dans les parcs. Oui, en mode nature, si tu peux créer un incendie, mais si c'est dans un endroit sain, ta terrasse, bien sûr, elle n'est pas interdite.
Je crois que même les barbecues perso n'étaient pas autorisés.
Ah bon ?
Je sais pas. En tout cas, je sais que ce week-end, on allait se baigner à Langøyen et il y a eu un petit altercation avec des gens qui voulaient faire leur
Gangsgrill. Tu n'as pas le. Ah, et là, c'est bien Gangsgrill encore une fois, la compagnie.
Ouais. Et du coup, les gens, ils comprenaient pas pourquoi les. Enfin, en gros, ils ont commencé à allumer leur petit barbecue portable là, et en fait, des gens sont venus leur dire, écoutez, non, c'est pas possible, quoi, c'est illégal. Non, mais on savait pas. Blablabla. Et du coup, on a vu. Enfin, moi, j'ai vu un tas se former de voisins vigilants, je sais pas comment les appeler, mais en tout cas, qui disaient, un peu rappel à la loi entre citoyens, quoi.
Ouais, ouais.
Ils prenaient ça très sérieusement.
Oui, oui, voilà. Après, si t'as une terrasse comme la tienne, je pense que tu peux barbecuer à foison.
Ça sera le plan de l'été. Mais sinon, vous avez d'autres projets autour de la table ?
Moi, du coup, c'était Jotunheimen et Hardanger. Et on va essayer la tente et un refuge en DNT avec des amis.
Ah !
Donc, sur combien de jours ?
Sur 10 jours.
Ah oui, donc longue balade.
Et après, je vais aller en Lettonie.
En Lettonie ? Qu'est-ce qu'il y a à faire en Lettonie ?
C'est ce qui m'attire justement. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de bois. Je pense que la côte baltique, je pense qu'elle est un peu méconnue. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. En tout cas, il y a un parc national que je vais faire. Et il y a Riga aussi.
Ok, très bien. Emma ?
Moi, je vais aller en France et voilà. Il y a Montpellier, je retourne.
Ah ouais.
À Montpellier. À Avignon. Ah, tu rigoles.
À Montpellier,
mais ça articule comme jamais. Moi, je t'imite toute la famille quand tu veux.
Parle de Montpellier.
Ah non, à Montpellier, à Saint-Georges-d'Orque, là où il y a toute la famille, moi je peux t'assurer que ça parle comme ça.
Alors moi je pense qu'une interview s'annonce. Mais on croise les doigts pour une prochaine émission d'été enregistrée, peut-être à Fredrikstad. On est vraiment entre guillemets conditionnels.
Vous allez partir à l'aventure sans moi là.
Ça sera Valentin qui va partir en solo parce que moi je serai à Bergen. Ouais. Donc on croise les doigts que Valentin pourra faire une échappée belle à Fredrikstad.
Un grand reportage sur un sujet climatique.
Oui, pas que sur des bateaux et des riches qui se la pètent devant tout le monde, ou alors des hôtels à mouettes.
Non, mais un reportage, on a vraiment hâte. Et on espère vite mettre en ligne cette émission pour que vous puissiez l'écouter, la réécouter sur nos réseaux sociaux, sur SoundCloud, Facebook, Instagram, on vous mettra tout ça. C'était encore une fois un plaisir de vous faire une émission avec vous.
Plaisir partagé.
Se dit à une prochaine fois. À défaut d'être à Fredrikstad pour de Tall Ship Race, on se donne rendez-vous au mois d'août, j'espère.
Ouais, on espère.
Pour une prochaine émission de Brisons la glace.
Voilà. Et pour terminer, donc un morceau des fiertés. Enfin, je sais pas si celui-là est des fiertés, mais en tout cas, Eddie de Preto. Grave.
Ciao.
Ciao.